Donc je suppose que quelqu'un va chercher le tableau de papier sur lequel j'ajouterai quelques illustrations comme nous en avons pris l'habitude au fur et à mesure de l'exposé. Mais avant d'en venir à l'exposé lui-même, je voudrais lire avec vous un passage de l'Écriture sainte. Nous écouterons encore ensemble la parole de Dieu. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, nous lirons au chapitre 5, un passage bien connu, mais qu'on ne lit pas d'habitude au moment des cultes ou des instituts bibliques, mais au moment des cérémonies de mariage. Le texte, cependant, convient pour notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'Église, comme il vous a déjà été annoncé. Nous lisons donc au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, du verset 22 au verset 32. Excusez-moi, je dis verset 22, mais je crois que j'avais prévu de commencer en fait au verset 26. « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. » Jusqu'ici, notre lecture. Nous allons remettre au Seigneur ce moment d'institut biblique. Est-ce que notre frère Roger Deyer voudrait nous conduire dans la prière ? Amen. Nous avons parlé des fondements de notre foi, 7 leçons déjà, et en dernier lieu, nous avons considéré ce qui est au cœur du message de l'Écriture, à savoir la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, la mission du Saint-Esprit, qui est de nous appliquer les bienfaits que le Christ nous a acquis par sa mort et sa résurrection. Et nous en venons aujourd'hui à ce qu'on pourrait définir comme le résultat de l'œuvre double de la seconde et de la troisième personne de la Trinité divine, l'œuvre de Dieu. À quoi aboutit-elle? Quel est le fruit qu'elle porte? C'est l'Église. L'Église, dans la perspective de la Bible entière, me semble-t-il, c'est ce à quoi conduit l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et du Saint-Esprit qui a été envoyé pour faire précisément fructifier l'œuvre de Jésus-Christ. Le Christ a souffert la croix, ce supplice infâme, en vue de la joie qui lui était proposée, et cette joie, c'était de voir se constituer l'Église. C'est pour l'Église qu'il s'est lui-même livré, comme le rappelle le passage que nous venons de lire. C'est l'Église qui semble avoir été le but de l'œuvre de Dieu. Dieu qui, dès avant la fondation du monde, a conçu son plan, a envoyé son Fils et a envoyé son Esprit pour que l'Église soit. Alors j'imagine aisément qu'une objection vous vient à l'esprit à ce propos. Vous avez sans doute entendu dire que le but que Dieu vise dans le déroulement de toute son œuvre, c'est sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu que toute chose finalement se déroule. Et la vision qui est la vision de la fin de l'Apocalypse, qui nous montre quel est le terme de toutes les voies de Dieu, c'est la vision d'un monde nouveau, les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Alors est-ce que ce n'est pas un élément qui contredit ce que je viens d'affirmer, à savoir que c'est l'Église qui est le but visé par Dieu, ce pourquoi le Christ est venu dans le monde et s'est livré lui-même? Je ne pense pas que ce soit une contradiction. Parce qu'en fait, la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de sa bonté. C'est le resplendissement de ce qu'il est. Et dans quel miroir? La lumière de la bonté divine resplendit-elle? Ce miroir, c'est l'Église. Précisément, c'est la gloire de Dieu que l'Église fait briller, et d'abord aux yeux de Dieu lui-même, qui se réjouit de voir que sa bonté est multipliée en quelque sorte par tous ceux qui la reçoivent et ainsi la mettent en évidence. Que la gloire de Dieu soit une gloire qui rayonne par l'Église, dans l'Église, c'est bien ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens, juste un peu plus tôt dans l'Épître, au chapitre 3. Il y a cette parole de glorification de Dieu, à la fin du chapitre, à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Oui. Donc, que le but ce soit la gloire de Dieu, n'est pas du tout en contradiction avec ce que nous disons de l'Église. Parce que l'Église est le lieu même où cette gloire veut briller à jamais. Et puis ce n'est pas non plus en contradiction avec l'accent sur le monde nouveau. Car qu'est-ce qui est au cœur de ce monde nouveau, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre? Dans la vision de l'Apocalypse, c'est la nouvelle Jérusalem. Or, Jérusalem, nous allons y revenir d'ailleurs, c'est un nom pour l'Église. La Jérusalem qui descend du ciel, dans la vision des chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse, c'est l'Église comme l'épouse de Jésus-Christ l'agneau, c'est l'Église parvenue, certes, à sa plénitude finale, dans toute sa pureté. Car ce qui nous empêche de comprendre spontanément que le but de Dieu, c'est l'Église, c'est que le but n'est pas encore tout à fait atteint. L'Église, dans l'état où elle se trouve actuellement, c'est comme disait Calvin, il dit cela, je l'ai cherché pour quelqu'un il y a quelques jours, précisément la référence, dans sa lettre par laquelle il dédie au roi François Ier de France son grand livre, l'Institution chrétienne, c'est la pauvrette Église. La pauvrette Église. C'est l'Église parvenue à l'état que le Seigneur veut pour elle, qui sera le miroir sans tache du resplendissement de la gloire de Dieu, et qui sera le centre même du monde nouveau que le Seigneur prépare. L'Apocalypse le montre bien. Cette Jérusalem glorieuse, c'est l'Église glorieuse. Et nous sommes appelés, dès le temps présent, nous qui faisons partie de l'Église de Dieu, les prémices de toutes ces créatures. C'est dans le premier chapitre de l'Épître de Jacques que cette expression est employée. Nous qui avons été régénérés par la parole de vérité, nous sommes les premiers fruits. Les prémices, c'était à la fois les primeurs, ce qui était mûr en premier lieu de la récolte, et aussi le symbole de toute cette récolte est la part la plus excellente consacrée au Seigneur. L'Église est présentée par ce passage comme les prémices des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, du monde nouveau. Donc de nouveau, je pense que je peux affirmer que l'Église est le but que vise le Seigneur, alors même qu'il veut construire un monde nouveau et y manifester sa gloire. Alors l'Écriture parle de l'Église de deux façons principalement, enfin, disons que c'est une première distinction à faire. Elle parle de l'Église universelle qui rassemble tous les enfants de Dieu de tous les temps et en tous lieux, et puis des églises locales. Ce sont les deux usages que l'on repère dans le Nouveau Testament, l'un et l'autre abondant, l'un et l'autre sur les lèvres de Jésus. Dans le texte du Nouveau Testament, il n'y a que deux fois que Jésus prononce le mot « église ». Deux fois seulement dans l'évangile de Matthieu, et une fois c'est pour l'église universelle, Matthieu 16, où il dit, après que Pierre a confessé sa foi, « Tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ », Jésus dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Et puis, au chapitre 18, il traite des différends entre frères dans la communauté, des disputes, et il enseigne une procédure en cas de dispute. Dis-le, va reprendre ton frère, prends un autre témoin, et puis finalement, si ça ne marche pas, dis-le à l'église. Là, il s'agit manifestement de l'église locale. Alors nous ne savons pas avec une entière certitude, il y a des hypothèses à ce propos, quel est le mot que Jésus a employé en araméen ou en hébreu, les langues qu'il parlait probablement lorsqu'il donnait son enseignement. Mais en tout cas, dans la traduction inspirée par Dieu que nous avons en grec comme texte du Nouveau Testament, c'est le mot « église » qui est employé. Et ce sont les deux seules fois dans tout le Nouveau Testament où c'est Jésus lui-même qui énonce le terme, une fois pour l'église universelle, une fois pour l'église locale. Et s'il y a le même nom, bien sûr, c'est parce qu'il y a un lien. L'église locale doit être autant que possible dans un lieu et dans un temps donné la concrétisation, l'image fidèle de l'église universelle. Elle a la même définition, en quelque sorte, elle rassemble les enfants de Dieu, mais au lieu que ce soit toujours et partout, c'est ici et maintenant. Mais il doit y avoir donc une correspondance aussi étroite que possible. Alors je voudrais traiter dans les 40 minutes que nous avons encore, je voudrais traiter d'abord des raisons qui font que Dieu a voulu l'Église, des préparations et des préfigurations, et j'ai choisi comme sous-titre pour cette première partie « L'Église avant l'Église ». Puis, dans un deuxième temps, je voudrais sélectionner quatre images principales de l'Église qui nous permettront de comprendre sa nature et son rôle. Quatre images clés dans le Nouveau Testament. Et puis, je voudrais en dernière partie, mais assez brièvement, parler des signes donnés à l'Église, des signes que Dieu a ajoutés à l'Église. J'expliquerai ce dont il s'agit. Il s'agit essentiellement du baptême et du repas du Seigneur. Mais nous n'allons pas en discuter très longuement aujourd'hui. Donc d'abord, pourquoi l'Église et quels sont les éléments que la Bible nous fait entrevoir qui ont préparé la constitution de l'Église? Une réponse très générale à la question pourquoi l'Église pourrait être parce qu'il plaît à Dieu. C'est sa volonté. Et ça pourrait suffire, parce que cela correspond à la nature de l'homme, créature de Dieu. Mais en fait, ce n'est même pas une double réponse, cela, parce que si la nature de l'homme est telle qu'elle est, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il lui a plu de créer l'homme comme il l'a créé. Je pense que c'est la réponse essentielle, mais que nous pouvons quand même la déplier, en quelque sorte, parce que dit comme ça, nous ne comprenons pas grand-chose. Nous apprenons que telle est la volonté de Dieu, oui, mais Dieu souhaite que nous entrions dans sa pensée au moins un petit peu. Et donc pourquoi a-t-il voulu? Nous pouvons constater que cette volonté est présente dès le début de l'histoire de Dieu avec l'humanité. La première chose que Dieu dise à propos de l'être humain, c'est « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est la première chose, dans le récit détaillé de la création de l'humain par Dieu, au chapitre 2 de la Genèse, qui soit dit à propos de l'homme qu'il a créé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je me rappelle un théologien qui soulignait, la Bible commence par le couple et finit par la cité, précisément la cité glorieuse de l'Apocalypse. Jamais, jamais l'individu tout seul. Certes, l'individu compte aux yeux de Dieu, il nous connaît chacun par notre nom, mais il ne veut pas que nous soyons simplement des individus juxtaposés. Le propre de l'être humain, me semble-t-il, c'est avec un noyau irréductible qui fait qu'il est lui-même et pas un autre, et que Dieu le connaît comme tel et le veut comme tel, et l'a prédestiné dès avant la fondation du monde, avec une destinée éternelle. Voyez, le propre de l'être humain, c'est qu'avec ce noyau irréductible de l'individualité personnelle, il y a aussi une dimension selon laquelle nous sommes membres les uns des autres. Les humains tiennent les uns aux autres. Ça fait partie de notre être que nous soyons ainsi. On pourrait dire, voilà, les humains sont des individus. C'est pas très... Oui, je vais prendre un feutre qui... sont des individus, mais pas de purs individus. Ils débordent au-delà d'eux-mêmes, ils vivent en rapport les uns avec les autres, et dans une multitude de relations. C'est un peu comme les synapses du cerveau. Il y a un réseau qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous ne penserions pas du tout ce que nous pensons, sur n'importe quel sujet. Nous ne sentirions pas les choses comme nous les sentons si nous n'avions été influencés, éduqués, informés, modelés les uns par les autres depuis notre tendre enfance. On sait d'ailleurs que les enfants qui n'ont pas le soin d'autres personnes, même s'ils peuvent subsister physiquement, ne se développent pas humainement. Ce malheur est arrivé à quelques individus et ils sont incapables de parler, ils ne se comportent pas humainement. L'être humain est un être relationnel, un être communautaire, et cela donc nous explique que la volonté de Dieu soit que son salut aboutisse non pas simplement à une addition d'individus sauvés, mais à une communauté, à un ensemble lié qui est l'Église. Cela me semble très ferme, et peut-être pouvons-nous trouver la raison la plus profonde en nous rappelant que s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, le Dieu qui a créé l'homme en son image n'est pas seul. Il est unique, un seul Dieu, mais il n'est pas solitaire, car il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes en Dieu. Il est aussi une communauté. Dieu a la richesse de la vie de relation en lui-même. Et je pense que c'est la raison même pour laquelle il a voulu que l'être humain, en son image, soit, comme mon dessin un peu abstrait le suggère, un être qui vit communautairement. Et on voit alors, quand on suit l'histoire que nous rapporte l'Ancien Testament, comment Dieu a voulu que sa grâce se déploie dans une vie communautaire. Il est question au chapitre 4 de la Genèse de la lignée de Seth. C'est dans cette lignée qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel, du Seigneur. Là, il n'en est pas dit grand-chose, mais on voit quand même, c'est déjà... c'est pas simplement un individu ou un autre. Et puis il y a toute la famille de Noé. Apparemment, c'était Noé qui était le juste. Mais Dieu a voulu le sauver avec sa famille. 8 personnes, et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans ses épîtres, souligne, en particulier dans sa première épître au chapitre 3, que ces 8 personnes sont comme une figure de l'Église, de nous, qui sommes sauvés. La famille de Noé. Et puis ensuite, alors, c'est la lignée d'Abraham. Abraham et sa postérité. avec qui Dieu constitue une alliance. Dieu fait alliance avec Abraham et sa descendance. Et cette alliance est bien sûr une alliance qui lie Abraham et les siens à Dieu, mais qui les lie aussi les uns aux autres. Et ce qui est très significatif du caractère communautaire qui est ainsi établi, c'est la punition pour celui qui ne se soumet pas à l'une des clauses importantes de l'alliance, à savoir la circoncision. Si un enfant, un homme n'est pas circoncis, il sera retranché du milieu du peuple. Il est retranché de cette famille. Preuve qu'il y a un lien qui lie les uns aux autres, les descendants d'Abraham. Et puis alors nous avons la reprise de l'alliance faite avec Abraham, puis continuée avec Isaac et avec Jacob. Nous avons cette reprise lorsque les descendants qui portent le nom, le deuxième nom de Jacob, Israël, descendants d'Israël donc, sont constitués en nation. Vous savez qu'ils se sont multipliés et qu'à la suite de diverses circonstances, ils sont tombés dans une sorte de servage au milieu des Égyptiens, et c'est un peu le bagne pour eux. Ils doivent travailler très très dur, ils sont très nombreux, et Dieu a pitié de ces descendants d'Abraham. Il les fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. Il les conduit au désert avant de leur donner la terre promise, et il conclut avec eux par le moyen de Moïse une alliance. Une alliance qui reprend des éléments de l'alliance d'Abraham et qui rajoute beaucoup de choses, qui rajoute des institutions pour ce temps-là. La prêtrise, tous les sacrifices se sont organisés en particulier. C'est une nation sainte, c'est-à-dire mise à part pour appartenir spécialement à Dieu. C'est un peuple choisi qui est constitué par l'alliance d'Israël. Dieu traite avec Israël. Alors déjà dans ce temps du désert, de la conclusion de l'alliance, et puis par la suite ça se vérifie encore plus clairement, il apparaît que ce peuple n'est pas homogène, que ce peuple d'Israël, qui est en alliance avec Dieu, est un peuple où se mélangent d'authentiques croyants qui reçoivent en leur cœur la parole du Seigneur de l'Alliance, et puis des tas de gens qui ne sont israélites qu'extérieurement, par leur état civil, selon que la nation d'Israël est aussi une nation comme les autres nations, avec son gouvernement, mais qui ne sont pas authentiquement en relation avec Dieu. Et les prophètes développent deux thèmes qui sont liés étroitement l'un à l'autre, très, très intéressants. Le premier thème, c'est celui du reste. Ceux qui sont vraiment au Seigneur, dans cette masse d'Israël, la nation, mais nation mélangée, cela constitue le reste fidèle. Il y a plusieurs mots en hébreu pour évoquer ce que l'on traduit en général par le même mot français, le reste. Et c'est un thème qui intervient chez beaucoup de prophètes. Et il devient de plus en plus clair que c'est le reste qui hérite des promesses, que c'est lui qui, aux yeux de Dieu, constitue le véritable Israël. Et c'est le reste qui, dans les épreuves qui vont venir, recevra le salut, alors que les pécheurs dans le peuple seront punis pour leurs fautes. Ce thème du reste est un thème très important qui nous montre que, déjà dans l'Ancien Testament, c'est très très clair, il ne suffit pas d'être né selon la chair israélite pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour être sûr d'être du bon côté. C'était l'illusion de certains. Et constamment les prophètes disent, pas du tout. Et le jour de l'Éternel, le jour où il va se révéler, il sera pour vous ténèbres et non pas lumière, contrairement à ce que vous pensez. Donc il y a le thème du reste, est très important, et puis le thème d'un grand tri, où justement le reste, et ce qui n'est pas le reste fidèle, en Israël, seront décantés. Il y aura une séparation qui va se produire. Sous l'Ancien Testament, c'est le mélange. Mais un jour vient où la distinction apparaîtra. Nous avons par exemple à la fin du livre d'Amos, au chapitre 9, l'image du crible comme on crible le blé, on secoue dans le crible pour séparer la balle et peut-être les petits cailloux et puis le grain. De même, Dieu va secouer dans le crible la nation et séparer les pécheurs qui demeurent impénitents et puis ceux qui croient en son nom. Et cela, c'est un thème qu'on retrouve dans pas mal de passages et encore dans Malachie qui annonce cette grande différenciation que le Seigneur va opérer. Cela correspond aussi d'ailleurs aux promesses que la Jérusalem future, la Jérusalem glorieuse, par exemple dans les prophéties d'Ésaïe, ne sera composée que de justes, que tous ses fils connaîtront l'Éternel, seront enseignés de lui. C'est un thème qui est très clairement chez les prophètes de l'Ancien Testament. Le temps passe, et un homme, après des siècles où le peuple n'a pas eu la possibilité de reconnaître un vrai prophète, vraiment authentifié comme tel, un barbu assez sauvage d'aspect, puisqu'il n'a pas les habits du meilleur faiseur, il est vêtu de cuir sauvage, il mange des sauterelles, il est là dans les régions désertiques des monts de Judée, où un homme s'impose comme un prophète de Dieu, de nouveau, un prophète. Et que dit ce prophète, Jean? Que dit ce prophète? Il dit, le grand tri, c'est maintenant. Le grand tri, il va avoir lieu tout prochainement. Repentez-vous, changez radicalement, repentez-vous, car c'est maintenant. Et il propose un geste symbolique pour ceux qui veulent être du côté du Seigneur. Quand il va se révéler et faire le grand tri, un bain qu'il pratique dans le Jourdain, un bain par lequel ceux qui acceptent de se repentir reconnaissent qu'ils sont sales, qu'ils ont besoin d'être purifiés et se mettent du côté de celui qui vient, dont Jean dit, il vient après moi, je ne suis pas digne de lui dénouer ses lacets. C'est là, il y a la préparation de l'Église. Vous voyez la cohérence de ce que nous avons dans l'Écriture et, j'y reviens, la force de la volonté que marque le Seigneur de lier les uns aux autres ceux qui bénéficient de sa grâce. Un chrétien qui se complaît dans l'isolement et qui dit par exemple, « Oh mais moi ça va très bien tout seul, je fais mon culte tout seul, je n'ai pas besoin d'aller voir les autres », vraiment, je pense que c'est très suspect. Très suspect bibliquement. Alors voilà pour la préparation. Maintenant, quatre images clés dans l'Écriture pour cette Église qui, après que Jean-Baptiste a accompli son ministère, a été bâtie par le Seigneur Jésus-Christ et son Esprit. Quatre grandes désignations. La première, il y en aurait d'autres, mais je sélectionne celles qui me paraissent les plus importantes. La première, c'est le peuple ou la cité. La cité, c'est la cité capitale pour le peuple. Donc, finalement, vous pouvez conjoindre les deux images. C'est ce qu'on pourrait appeler l'image politique. Politique vient de ville, la cité. On peut présenter cette première image comme une image qui se rapporte davantage au domaine politique. L'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est l'Israël de Dieu, l'Israël spirituel, distingué de l'Israël selon la chair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Israélites selon la chair dedans. Au contraire, elle commence comme ça. Elle commence seulement avec des Israélites selon la chair, mais qui ont aussi l'Esprit. Et ce qui la caractérise, c'est d'être l'Israël selon l'Esprit, distingué de l'Israël selon la chair. Le mot « Église » d'ailleurs évoque cela. Le mot « Église », vous le savez, en français, c'est simplement la transcription du mot grec qu'on a dans le Nouveau Testament, « Ecclesia ». Or ce mot, qui signifie en gros « assemblée », est utilisé pour l'Assemblée d'Israël. dans tout l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est le mot ecclésia qui est employé pour Israël, constitué comme la nation sainte qui vient à la rencontre de son Dieu dans l'alliance que le Seigneur lui a accordée. Et l'une des occurrences de ce mot ecclésia dans le Nouveau Testament est d'ailleurs pour Israël, en acte 7, 38, Étienne, c'est le grand discours d'Étienne, parle de l'ecclésia au désert, au temps de Moïse. Et puis, ce peuple, alors, il se concentre en sa capitale, en Jérusalem. Si je fais un petit dessin, je vais vraiment avoir du mal, mais j'essaye un peu. Je vais essayer de vous représenter Jérusalem. Jérusalem, vous savez, est sur un promontoire rocheux entre la vallée du Cédron et puis le petit val de Hinnom. Il se trouve là, au sud-ouest plutôt. Ici, vous avez le mont des Oliviers. Vous avez là une pente très escarpée, ça fait un peu falaise. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de prendre un repas dans un collège universitaire américain qui est juste installé en plein dans cette montée très 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 raide, falaise au-dessus du val de Hinnom. C'était magnifique d'ailleurs. Et donc c'est là la cité de David. Et ensuite elle s'est étendue comme ça, avec le temple, par ici. Voilà, voilà Jérusalem. L'Église est appelée la Jérusalem d'en haut. L'apôtre Paul, au chapitre 4 de l'Épître aux Galates, souligne le contraste entre la Jérusalem terrestre, que j'ai représentée à ma manière sur le tableau, et puis la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, qui était représentée en figure par Sarah dans l'histoire d'Abraham, alors que la Jérusalem terrestre, celle du judaïsme persécuteur à l'époque, et correspond plutôt à Hagar, la servante et la mère d'Ismaël. Voilà ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Alors nous avons cette description de l'Église comme cité et peuple, comme première grande description. Alors qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette description-là, en résumant? Je pense d'abord qu'elle nous rappelle que l'Église est faite de personnes, comme un peuple est fait d'un certain nombre de citoyens. L'Église est constituée par les personnes. Ce n'est bien sûr pas le bâtiment de pierre ou éventuellement de béton ou de verre et d'acier, comme certaines constructions modernes. Il faut d'ailleurs dire cela aussi du tabernacle. Parce que nous appelons notre bâtiment le tabernacle. Bon, c'est notre habitude, hein, puis nous n'avons pas été les premiers. En fait, les baptistes en Grande-Bretagne ont commencé, semble-t-il, dès le XVIIIe siècle, à employer cette façon-là de dire. Mais, en toute rigueur, le tabernacle, c'est la même chose que le temple. C'est un temple portatif léger que Dieu avait donné l'instruction de faire à Moïse dans le désert, et ensuite, donc, ça a été construit en dur. Mais, foncièrement, c'est un temple. Or, l'Écriture nous dit très clairement que c'est nous qui sommes le temple. Enfin, ça va être ma deuxième grande image, alors je ne développe pas maintenant. Donc, ça veut dire que le tabernacle, en fait, c'est nous qui le sommes. Nous sommes, en tant que personnes, unis les uns aux autres, les fils du tissu du tabernacle, et puis les poteaux et les crochets, nous sommes cela les uns et les autres, du tabernacle du Seigneur. Donc, l'Église est faite de personnes. L'Église implique une citoyenneté. Eh oui, il faut avoir droit de cité. Et l'apôtre Paul dit bien que, avant que la grâce nous soit offerte par Jésus-Christ, nous étions privés du droit de cité en Israël. Eh oui, nous n'étions pas des enfants de Jérusalem. Et nous avons acquis la citoyenneté par la grâce de Dieu. Et c'est une cité qui est céleste dans son origine, dont tous les fils sont instruits de l'Éternel d'une manière personnelle, et cela veut dire qu'on y entre par la nouvelle naissance. Oui, c'est à la fois une naturalisation, puisque nous n'étions pas par naissance naturelle des enfants de Jérusalem, et c'est la nouvelle naissance, parce que c'est plus quand on pense sur une carte, c'est un changement que l'Esprit créateur de Dieu opère, donc c'est une nouvelle naissance. Mais on devient membre de l'Église, en acquérant la citoyenneté par la nouvelle naissance et l'adoption divine. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rattacher à cette image de l'Église. Tout peuple, toute cité a une constitution. Elle peut être plus ou moins écrite, mais elle est là quand même dans les esprits. Il y a une charte, il y a des lois, il y a des services, des ministres, différents officiers d'état civil et autres. C'est comme ça aussi dans l'Église. L'Église a une charte. Alors c'est d'abord la Bible, mais si nous avons une confession de foi, si nous avons des statuts, c'est parce que nous sommes comme une cité. C'est ce qui correspond à ce côté-là de l'Église. Et nous avons des ministères avec différentes délégations pour faire ceci ou pour faire cela. Une organisation comme un peu comme dans une ville. Cela est bien biblique. Cela correspond à cette première description de l'Église. La deuxième, alors j'ai déjà annoncé, je suis allé un peu trop vite peut-être, la deuxième c'est le temple. Alors, j'ai regardé un dessin proposé du temple pour essayer de vous dessiner quelque chose qui pourrait tenir le coup. Voilà le temple, avec l'escalier pour accéder à la plateforme. Une grande porte pour entrer dans le lieu saint. Deux grandes colonnes qui s'appelaient, pour le temple de Salomon, Boz et Yachin. Et puis, vous avez donc la construction avec des éléments annexes, sans doute. Voilà le temple. Nous sommes le temple de Dieu. Cela est souvent dit dans le Nouveau Testament, et en particulier dans l'Épître aux Éphésiens que nous venons de lire. Le temple, c'est-à-dire la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise le temple? Quels sont les aspects de la vérité de l'Église et de son rôle qui sont particulièrement mis en valeur si nous disons que l'Église est le temple de Dieu? Je pense que la première chose qu'il faut souligner, c'est que Dieu y est présent. Ce qui caractérise le temple, c'est que Dieu choisit d'y résider. C'est sa maison. Alors il faut bien comprendre, bien sûr, que Dieu est présent partout. Il est omniprésent, comme on dit. Et s'il n'y avait pas cette présence pour soutenir le monde, aucune réalité ne subsisterait un instant. Mais la présence de Dieu se module de façon diverse selon qu'il se donne. Et la présence dans l'Église, dans le temple, est une présence spéciale, une présence pour la rencontre, pour que ceux qui viennent là puissent le rencontrer. Le tabernacle était appelé la tente de la rencontre. C'était là que Dieu avait donné rendez-vous à son peuple pour le rencontrer. L'Église faite de ces pierres vivantes que nous sommes, est le lieu où Dieu réside et où il veut être rencontré. C'est là, je pense, la première chose que souligne cette appellation, désignation de l'Église comme temple. Le deuxième élément, c'est qu'on ne se présentera pas au Seigneur les mains vides. Vous vous rappelez cette règle qui est énoncée, qui est assez solennelle dans l'Ancien Testament. On ne se présente pas au Seigneur, au temple, les mains vides. On apporte son offrande, on apporte l'hommage. Quand on allait voir à l'époque un roi, un puissant, on apportait quelque chose. On ne se présentera pas au Seigneur les mains vides. Nous sommes appelés à présenter notre culte dans l'Église au Seigneur. Alors le Seigneur ne veut plus des sacrifices animaux qu'on lui présentait dans le temple de Jérusalem. Cela est aboli. Parce qu'il s'agissait d'une figure du sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais nous sommes toujours invités à apporter les sacrifices spirituels qui plaisent à Dieu, le fruit de lèvres qui confesse son nom, dit l'Épître aux Hébreux. Aussi, les offrandes qui vont servir aux frères et sœurs, cela aussi, ce sont des sacrifices que le Seigneur a agréés. Et puis plus largement, le sacrifice de tout ce que nous avons et pouvons être, offrez votre corps en sacrifice vivant et saint. Voilà ce qui est agréable à Dieu, ce qui est le culte spirituel. Oui. Mais nous sommes invités à apporter notre culte au Seigneur. Et c'est ce que nous faisons, nous avons fait ce matin, ce que nous sommes ensemble en train de faire. Mais parfois, je me demande si nous en avons tout à fait le sens. Il me semble que nous venons un peu trop souvent à ce que nous appelons le culte, nous venons au culte, en fait, pour recevoir, sans la pensée que le Seigneur veut que nous lui apportions un hommage qui lui plaît, et que nous lui apportions ensemble, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas, justement parce qu'il veut l'Église, il ne se contente pas du culte personnel, de ce que nous lui apportons de notre offrande de reconnaissance et d'amour, de manière intime, à part chacun. Il veut aussi le sacrifice de la louange communautaire, de la prière où nous prions tous ensemble, où nous disons Amen, pour bien montrer que celui qui prie, c'est pas sa prière à lui tout seul. Hein. Une prière communautaire, c'est la prière de tous par la voix d'un seul. Et voilà ce qui plaît au Seigneur. Je crois que nous ne venons pas assez au culte avec cette pensée. Et elle est rattachée au statut de temple du Seigneur qui est l'Église. Quelle Église ? Il y aurait d'autres aspects encore. Il y a la sainteté. La sainteté convient à ta maison. Ce qui est la propriété de Dieu, là où il est lui-même. Rien de souillé ou d'impur n'est vraiment tolérable en la présence de celui qui est saint. Puis il y a l'aspect de construction progressive. C'est de manière progressive à travers le temps que ce temple s'édifie. Il s'élève pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce que l'Épître aux Éphésiens nous dit au chapitre 2. Il n'est pas achevé encore. Et le sens profond de l'histoire depuis près de 2000 ans, c'est la construction de ce temple du Seigneur dont nous sommes, nous, des pierres diverses. Vous voyez tous les éléments, et dans cette construction, oui, quand même le mentionner à propos de la sainteté, la sanctification fait partie de cette construction. En quelque sorte, les pierres vivantes qui doivent être assemblées sont taillées et polies pour occuper exactement leur place dans la muraille du temple, comme Dieu l'a voulu. Troisième grande image, celle de l'épouse, celle que met en évidence le passage de l'Épître aux Éphésiens que nous avons lu, mais qui se trouve bien sûr à beaucoup d'autres endroits aussi. Jean-Baptiste l'a déjà utilisé quand il a vu que les hommes pieux d'Israël, les hommes et les femmes même pieux d'Israël, se détournaient un peu de lui pour aller se mettre à suivre Jésus. Il a dit c'est normal. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Ips nous présente très fortement cette image de l'Église comme l'épouse qui est déjà préparée dans l'Ancien Testament par ce qui est dit d'Israël comme l'épouse du Seigneur. Alors que souligner à ce propos ? La première chose à souligner, je crois, c'est que le mot épouse ne fait sans doute pas venir à notre esprit tout ce qui y est associé dans l'Écriture elle-même. L'épouse, dans Éphésiens 5, dans l'Apocalypse, etc., c'est la mariée, vive la mariée ! C'est la mariée en vue du jour des noces, vous voyez ? Il faut penser, quand on l'y épouse, à la fête des noces qui se prépare et pour laquelle la mariée se prépare. Nous sommes dans la situation, aujourd'hui, de la mariée en train de se faire belle pour la cérémonie et ensuite le banquet pour son marié. C'est là la situation exacte. Nous avons déjà été rachetés par le Christ, il s'est livré lui-même pour nous, mais il est en train de nous préparer pour ce jour-là. Et ça, je pense que nous n'y pensons pas assez. En me préparant, je souriais, moi, tout seul, en disant, on parle d'une toilette de mariée. Quand ça dure très longtemps, on dit une toilette de mariée. Et oui, eh bien, ça dure depuis presque 2000 ans, la toilette de mariée. L'Église en a besoin. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas commencé très belle. Alors, il faut le super esthéticien qu'est le Seigneur pour que la mariée soit belle. Et il efface les rides et il corrige. Mais ça correspond à cette image de l'Église comme la mariée. Et alors l'autre point qui est particulièrement important concerne la relation avec le marié. C'est parce que l'Église est l'épouse que le Christ s'est livré lui-même pour elle, qu'il l'a aimée jusqu'à la passion. C'est l'amour de notre Seigneur que le titre d'épouse, de mariée pour l'Église nous rappelle sans doute principalement. Et puis corrélativement, et c'est dans le passage de l'épître aux Éphésiens que nous avons lu, corrélativement c'est la soumission joyeuse de l'Église à son chef, à sa tête, qu'est le Seigneur, qui est aussi impliqué par cette image. Alors on pourrait développer encore beaucoup, mais je ne veux pas dépasser le temps. Nous avons erré en dépassant les temps quelque peu, quelquefois ces dernières semaines, alors surtout il ne faut pas le faire. Donc je passe à la quatrième image qui sans doute est l'une des plus connues, celle du corps. Celle du corps. En fait, elle ne se trouve que chez Paul. Dans le Nouveau Testament, nous sommes un corps dans le Christ. Nous sommes corps du Christ. Voilà des expressions que Paul emploie. Alors la chose qu'il faut souligner, c'est que l'apôtre ne parle pas du Christ comme la tête du corps avant, en tout cas, les toutes dernières épîtres qu'il a écrites. Donc, il ne faut pas s'imaginer l'Église comme un corps et puis le Christ la tête. De telle sorte que si le Christ n'avait pas l'Église, il serait comme une tête décapitée, sans moyen d'action, etc. Ce n'est pas une perspective biblique. Le Christ est la tête du corps, comme le mari est le chef de la femme. Il est tête du corps dans ce sens. La femme est le corps de son mari, et l'Église est le corps du Christ vis-à-vis de lui. Donc ce n'est pas ce schéma-là. Non, ça ne correspond pas. Et il ne faut pas donc tirer des conclusions fausses, ni de donner au corps qu'est l'Église les prérogatives du chef, il demeure lui le chef, alors que dans un corps où c'est simplement la tête et le tronc, les mêmes prérogatives s'attachent aux deux éléments, et il faut bien comprendre que le Christ, même s'il se plaît de se servir de nous, garde sa pleine liberté d'action comme il l'entend, lui qui est au ciel, avec son corps personnel. Donc, il ne faut pas se méprendre. Que veut souligner l'apôtre lorsqu'il parle de l'Église comme d'un corps? Il y a sans doute plusieurs significations. Et dans le cours que je donne sur le sujet, et qui devrait donner lieu à publication d'un livre dans les mois qui viennent, vous verrez que je peux développer. Mais ce qui semble le plus net et le plus clair, dans les deux passages où l'apôtre Paul développe le plus l'image du corps pour l'Église, Romains 12 et 1 Corinthiens 12, il est très clair que pour lui, le corps est d'abord l'image de la diversité unifiée. C'est pour dire aux membres de l'Église, vous n'êtes pas tous les mêmes, vous avez des fonctions diverses, vous avez des dons qui ne sont pas les mêmes, et c'est normal, et c'est bien, et c'est ce qui vous lie les uns aux autres, que l'apôtre emploie l'image du corps. Dans un corps, il y a des fonctions très diverses, des membres avec des rôles qui ne se copient pas les uns les autres. Et c'est comme ça que le corps est beau, c'est comme ça qu'il vit, qu'il est efficace. Si tout le corps était ouï, s'il n'y avait qu'une oreille ou une multitude d'oreilles, puis c'est tout, nous serions bien misérables. le corps est justement diversité unifiée. Et la pluralité des dons, des tempéraments, des capacités, etc., que Dieu a donné, au lieu d'en faire des occasions de jalousie, de division, c'est au contraire ce qui doit unir les membres, comme étant un seul corps. Là, c'est, je pense, l'accent principal que met l'apôtre. Alors, il y a un accent qui est rajouté, en particulier dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4 et dans l'épître aux Colossiens, le passage parallèle, c'est l'idée de croissance vivante. Un corps, évidemment, après la naissance, il grandit. Et il grandit tout seul, s'il est nourri, bien sûr. Mais il grandit. L'image du temple nous a évoqué une construction, mais une construction qui est en quelque sorte mécanique, qui ne se fait pas par simple expression de vie. L'image du corps évoque la croissance comme une suite naturelle de la vie qui est donnée et qui lie les uns aux autres avec la diversité de leurs dons, les membres du corps. Ce sont là, je pense, les grandes données de l'Écriture. Alors le mot corps, je crois, peut induire une réflexion intéressante. Il y a un lien entre le fait que l'Église est un corps, au sens imagé, un corps spirituel, et puis le fait que nous sommes dans des corps. Il semble bien que pour qu'il y ait une union vivante constituant un seul ensemble, un corps, pour des créatures, il faut passer par la médiation du corps. Si nous étions de pur esprit comme les anges, il ne semble pas que les anges constituent un corps. Mais nous communiquons les uns aux autres, nous sommes justement membres les uns des autres parce que nous avons des corps. Que nous sommes esprit, âme et corps. Et à cause de cela, Dieu a voulu que l'Église, qui est invisible en sa réalité la plus intime, c'est le Saint-Esprit qui unit les cœurs, est aussi une expression visible. Et l'Église locale en particulier, qui concrétise l'Église universelle, elle a une face visible. C'est pour ça que nous sommes réunis dans ce lieu très tangible, et que nous nous voyons. Il y a une expression et un cadre visible voulu par Dieu pour l'Église. Et sans ça, on ne voit pas très bien comment pourrait se constituer la communion spirituelle elle-même. Oui. Et alors, pour structurer cette expression visible de la réalité de l'Église, Dieu a tout spécialement donné deux signes. Un bain et un repas. Ce sont les deux signes chargés de sens qu'il a donné à son peuple. Et le bain, on l'appelle le baptême, le bain marque l'agrégation à ce corps, l'accès à la citoyenneté, c'est l'enregistrement de la citoyenneté nouvelle en quelque sorte. J'aurais pu faire un petit dessin en essayant de reproduire le baptistère que nous avons ici, mais il sera plus évident la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons la joie de pratiquer le baptême selon l'ordre du Seigneur pour des membres qui s'adjoignent à notre communauté. Alors, je ne développe pas davantage, d'une part parce qu'il y aura des baptêmes la fois prochaine et qu'ils seront quand même jusqu'à un certain point expliqués, et puis d'autre part parce que je prévois aussi, comme leçon, non pas 9 mais 8 bis, aujourd'hui c'est la leçon 8, hein, pour l'Institut biblique de la fois prochaine, 15 décembre, de dire pourquoi nous sommes baptistes. Donc de revenir sur notre identité de baptiste, les convictions qui font que nous portons cette étiquette. Et donc je reviendrai sur la question du baptême plus spécialement et de nos différences avec quelques autres chrétiens. Alors le second signe, c'est celui que nous avons partagé il y a quelques instants, le signe du pain et du vin. Un repas ou les éléments clés d'un repas. Dieu a voulu que ce repas marque le renouvellement de ce qui nous unit les uns aux autres. Que nous nous rappelions constamment quelle est la source de l'unité vivante qui nous constitue en un seul corps, qui fait de nous l'épouse du Seigneur qui attend avec patience et impatience à la fois, qui attend avec espérance que le marié apparaisse dans toute sa beauté. C'est le repas de l'espérance, c'est le repas qui marque tout spécialement que l'unité comme un seul corps qui est la nôtre, c'est le symbolisme de tout repas, hein. Ceux qui prennent un repas, ils montrent qu'ils sont unis les uns aux autres, vient de Jésus-Christ. Si nous sommes un seul corps, c'est qu'il a donné son corps, au sens littéral, pour nous. Et le pain que nous rompons est le rappel à la fois de ce don du corps de Jésus-Christ à la croix pour nous, et le rappel que ce don même nous constitue comme un seul corps, son corps spirituel. Voilà, je crois, le sens principal. Il est un peu obscurci par le fait que nous avons séparé, comme le christianisme l'a fait en général, la célébration du repas du Seigneur d'un vrai repas. Et je le déplore parfois, je crois que nous avons une fois pratiqué autrement d'ailleurs en bas, à l'occasion d'un repas fraternel, j'aimerais que nous puissions le faire plus souvent, mais en tout cas rappelons-nous cette signification. Voilà donc quelques éléments sur cette doctrine de l'Église. Je n'ai pas outrepassé le temps, il y a donc 2 ou 3 minutes pour des questions si vous souhaitez en poser. Oui, oui, Madame Bonneveau. Oui. Oui.
Est-ce que ce n'est pas le fait que l'Église en général, le Christ est la tête de l'Église, et que c'est lui qui dirige l'Église, c'est comme une épouse. Et donc, un membre qui tombe, et qu'il est un peu comme si c'est parce qu'il n'a pas suivi son Seigneur, son Christ. Est-ce que ce n'est pas cette image que nous, les humains, on adopte pour mettre la femme qui est divorcée, de côté, comme si elle n'a pas joué son rôle?
Oui, je vais essayer de répondre. Donc la question porte sur le statut des divorcés, en particulier des femmes divorcées, avec l'impression que souvent elles sont mises de côté dans les églises. Est-ce que nous ne suivrions pas des modèles trop humains pour avoir de telles exclusions de faits? Il me semble que c'est cela la question par rapport à la doctrine de l'Église qui nous occupe. Je crois que vous touchez effectivement un problème extrêmement douloureux, névralgique, que les responsables des églises en général, et nous aussi au tabernacle, nous avons besoin d'une très grande mesure de la sagesse de Dieu et de l'amour de Dieu et de la compassion de Dieu à la fois pour traiter ce qui est devenu très fréquent, très fréquent. Ça fait partie, à mon avis, des victoires les plus terrifiantes de l'adversaire, que la multiplication des divorces depuis quelques dizaines d'années, y compris parmi les chrétiens, y compris parmi des pasteurs. Et je crois que nous avons besoin, face à cette manifestation de l'action de l'adversaire, d'être effectivement très vigilants et très sages, qu'il ne faudrait en aucun cas que cela aboutisse à une exclusion, à un ostracisme qui frapperait les personnes divorcées, en particulier les femmes, et normalement les hommes doivent avoir exactement le même traitement dans la pensée biblique concernant le mariage. Je crois que la discipline biblique a uniquement pour but de conduire à la repentance, les personnes qui se sont endurcies contre le Seigneur. Dès qu'une personne a confessé sa faute s'est retournée vers le Seigneur pour le suivre, il n'y a plus aucune exclusion pour cette personne. Absolument pas. Il peut être prudent de ne pas lui confier un ministère spécial qui est plus exposé, ça c'est une autre chose. Mais il n'y a pas d'exclusion du tout dès qu'il y a repentance par rapport à une faute. Ça, il faut bien nous rappeler. La discipline, c'est absolument pas faire payer sa faute à quelqu'un. Absolument pas. C'est le Seigneur qui a tout payé. C'est vraiment fouler aux pieds le sang du Seigneur que de penser à la discipline comme du moyen de faire payer. C'est inadmissible. Donc, il faut être très au clair pour nous sur le sens de la discipline. Mais cela dit, il y a des péchés pour lesquels il faut exercer une discipline tant que la personne dit « Mais si j'ai raison, mais si j'ai raison. » Donc, c'est ça ce qui oblige. Et alors, parfois, il y a des malentendus à ce propos. Il y a des différences d'opinion qui sont légitimes, et c'est là que les choses deviennent souvent très, très, très délicates. Mais je voudrais assurer notre sœur que l'intention du Conseil est très, très fortement qu'il n'y ait aucune exclusion dans notre Église.
Oui. 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 Oui.
Oui, oui. Oui. Dans le cas du Seigneur, évidemment, c'est toujours l'Église qui est en faute. Mais.
Oui, oui.
Alors, je ne sais pas, votre pensée est peut-être là que nous avons une tendance, puisque c'est le mari qui représente, en quelque sorte, dans l'image, le Christ. Et la femme qui représente l'Église, de dire que c'est la femme qui a toujours tort. Alors ça, évidemment, c'est une sottise, quoi. Parce que, bien entendu, les maris chrétiens, mais je suis le premier en cause, ne sont pas là du tout, hélas, aussi sages, saints, purs, etc., que le mari céleste qu'est le Seigneur, et ils ne sont pas moins pécheurs que les femmes, et les femmes moins que les hommes d'ailleurs. Oui. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'une autorité absolue qui leur est dévolue, et ce n'est pas eux qui ont toujours raison, pas du tout, pas du tout. Oui. Voilà, je crois que nous avons atteint l'heure, donc nous allons donc maintenant clore, mais je vous remercie pour votre attention, que le Seigneur vous bénisse au long de cette semaine.